rendez-vous.
Rendez-vous?
Qu'est-ce que vous faites ce soir?
Ce soir?
Oui.
Rendez-vous?
Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue, on est très heureux de vous retrouver pour ce dernier rendez-vous, nouveau rendez-vous de la semaine, 22h minuit, 2h de direct. Ça se passe dans le studio 621, en plein cœur de la Maison de la Radio. Ce soir, photographie, performance et bande dessinée avec Emmanuel Guibert, encore auréolé de son prix René Goscinny au dernier festival d'Angoulême. C'est un prix qui a récompensé l'ensemble de son œuvre de dessinateur et de scénariste. Une œuvre particulière dans l'histoire de la bande dessinée puisque Emmanuel Guibert a créé ce qui est devenu aujourd'hui un genre, la biographie dessinée. On reviendra sur son dernier album Martha et Alan, un souvenir d'enfance qu'Alan, ex-GI resté en France après la guerre, vous a raconté. Emmanuel Guibert, bonsoir.
Bonsoir Laurent.
À vos côtés, Gaobo, photographe performeur qui expose ses offrandes à la Maison Européenne de la Photographie à Paris. Gaobo, la rétro, plus de 30 ans de travail, l'occasion de revenir sur le parcours hors norme d'un artiste chinois qui, après son premier voyage au Tibet en 1985, va développer un travail de photographie performative avec des tirages qu'il recouvrira plus tard de peinture noire, d'encre, de son sang, des photographies qu'il peut brûler pour en récolter les cendres. Je pense notamment au portrait brûlé des condamnés à mort. On aura compris la métaphore. Gaobo, bonsoir.
Bonsoir, monsieur Kumar.
J'adore quand vous dites ça. J'adore. C'est le premier à dire ça. Quel respect. 22h30, l'instant V de Vali. Madame Vali, toute la musique live ce soir.
Oui, je continue ma recherche sur les échauffements des artistes avant de monter sur scène. Ce soir, c'est Simon de Her qui s'y colle.
Ce qui est le plus efficace, c'est bailler. Ça ouvre bien tous les muscles, ça étire. Et sinon, moi, je fais souvent un... Du coup, ça échauffe aussi le diaphragme et le ventre.
Vous voyez,
exactement.
Tout le monde fait ce
bruit.
Il faut
avant-hier.
Qu'on le fasse maintenant.
On va le faire la semaine prochaine.
En tout cas, c'est le groupe Her pour deux titres d'ici 20 minutes.
Oui, et puis l'instant V, c'est aussi le moment Facebook Live de l'émission. Vous pouvez donc nous rejoindre à 22h30 sur la page Facebook du NRV. Et puis, comme chaque jeudi, Vali, vous allez nous annoncer d'excellentes nouvelles de la planète musique. C'est la mixtape du jeudi, le meilleur des albums à venir.
Oui, c'est très éclectique comme d'habitude. Je parle notamment du groupe... Cannibal.
Parfait. Ça me fait peur. Mais c'est la trouille. Le week-end. 23h le journal, 23h15 le NRV la suite. Et ce soir, comme dirait France Gall, le désert avance, Benoît Lagan.
Oui, et les femmes touareg dansent, le sable devient roi. Et oui, c'est ce que chantait France Gall. Oui, mais nous, on va s'intéresser plus au désert et au peuple nomade en 2017 qu'à la chanson du berger. L'expérience donc du désert au menu du NRV tout à l'heure avec Philippe Frey, ethnologue, grand aventurier.
Un grand aventurier.
Et qui est de passage à Paris et l'auteur d'un livre passionnant, Peuple du désert. Et puis on a convié à ses côtés un journaliste photographe documentariste, Arnaud Contreras, et une spécialiste des voyages de l'extrême, Chantal Mortier, de l'agence Terre d'Aventure.
Et bien voilà, le NRV, 22h minuit, ça va voyager, ça peut commencer.
France Inter, le nouveau rendez-vous, Laurent Goumard.
Gaobo, la Maison Européenne de la Photographie à Paris vous consacre une rétrospective pour votre travail de photographe, d'installation et de performance. Vous avez d'ailleurs eu un geste, moi j'étais pas là, hein. C'était la veille du vernissage, le 6 février. Je crois que vous avez recouvert de peinture certaines de vos œuvres, c'est cela ?
C'est cela, oui, c'est bien cela. Quelquefois, je dis aussi, j'ai un peu sali la salle de la MEF. Mais c'est très facile à nettoyer après.
Quelles sont les photographies que vous avez recouvertes? Vous avez fait quel choix?
C'est le travail qui s'appelle Offrande du mandala. Au début, je voulais couvrir tous les quatre diptyques.
Ouais.
Et finalement, j'étais gentil.
Vous en avez fait peu. Vous êtes coutumier du fait pour les vernissages de faire comme ça des actions sur vos photographies?
Je le fais toujours. Le jour d'un vernissage à la MEP,
ouais,
je fais un petit geste de, si vous voulez, on appelle ça performance. Mais souvent, moi, je préfère pas ce mot-là. Parce que je me considère toujours comme aussi une matière aussi importante comme les autres matières dans mon travail.
D'accord.
Ouais. Donc j'ai allumé quelques centaines de bougies,
ouais,
pour offrandre aux visiteurs.
C'est pas mal. La première fois que vous avez fait ce geste de recouvrir vos photographies, c'était à quelle occasion, à quelle époque?
À la première fois, c'était pas pour couvrir la photographie, c'est pour faire un nettoyage. C'est-à-dire que je nettoyais une image, ouais. Une image que je tirais sur le corps d'une femme. On peut dire aussi c'est un hommage à Marcel Duchamp.
Exactement, ouais.
La Mona Lisa. Ouais. Pour moi, la disparition, la renaissance, couvrir, recouvrir, tout ça, c'est un sujet très important pour moi.
On en parlera tout à l'heure. Ouais. Emmanuel Guibert, on va parler de BD dans quelques instants avec vous, du genre que vous avez initié, la biographie en bande dessinée, même s'il y avait eu quelques petits précédents il y a pas mal de temps.
J'allais le dire.
Ouais. La photo, vous vous en servez? Vous en faites?
La photo, j'en fais jamais. Et par contre, je m'en sers abondamment parce que j'ai même consacré des livres à des photographes, à des amis photographes, en utilisant leurs photographies et en les insérant dans le cours de mes dessins. Et puis, j'en suis très amateur dans la mesure où j'aime bien voir des expositions de photos. J'ai beaucoup de livres de photos à la maison. Il y a des photographes que j'admire.
Il y a des photos dans vos albums de bandes dessinées, comme dans Martha et Alan.
Voilà, oui, il m'arrive de les utiliser d'une manière ou d'une autre. Oui. On est dans une époque où on ne peut pas faire sans, si j'ose dire.
La bande dessinée, vous connaissez, Gaobo ?
Oui, je connais un peu.
Vous en avez fait ?
Moi, j'aime bien dessiner. Parce que j'ai une formation de peintre.
Ouais.
Ouais, j'ai fait 8 ans de Beaux-Arts. D'ailleurs, mon école, Emmanuel, il était professeur invité dans mon école il y a 5 ans, c'est ça ?
Oui, je suis passé sur le campus de Tsinghua il y a quelques années, en effet, où Gaobo a fait ses études. Après être allé à Xi'an, mais à Xi'an, tu n'as pas étudié.
Xi'an, si j'étais pour faire des, comment on appelle ça, des conférences.
D'accord.
Oui.
D'accord. Oui.
Donc la Chine, vous connaissez pas mal ?
Pas mal, c'est beaucoup dire. Mais enfin, donc il y a quelques années, j'ai fait avec un éminent professeur chinois qui enseigne à Paris, à Paris 8, le professeur Ye, un voyage très intéressant en Chine, en effet, qui m'a mené d'abord à Xi'an, la fameuse ville du premier empereur, là où on peut voir l'admirable armée de terre cuite là, enterrée, et puis ensuite à Pékin, sur ce campus considérable de Tsinghua, où on poussait comme du chien dans ces dernières années des énormes immeubles de toutes les multinationales du monde, et qui est une espèce de ville dans la ville où il y a des dizaines de milliers d'étudiants. J'étais allé voir, en effet, les départements de dessins animés, d'illustration, etc.
Ouais, ça a beaucoup changé depuis le temps où vous avez fait vos études dans les années 80,
oui,
Gaobo.
Oui, mais ça, c'est une autre école maintenant.
Une autre époque. Vous avez un atelier à Pékin ?
Oui, dans le grand banlieue de Pékin, dans le nord de Pékin.
Un immense atelier pour toutes vos installations ?
Je ne sais pas comment on peut dire immense ou moyen.
Ça
ressemble à 2000 mètres carrés.
C'est grand.
C'est grand.
2000 mètres carrés. Ouais, c'est grand. Emmanuel Guibert.
Ah, comparé à la petite chambre dans laquelle je travaille, oui.
Non, parce que c'est fou ça. Ça me permet de faire des grands tirages.
Des grandes installations.
Oui, oui.
Le monumental. On va en parler dans quelques instants. Ouais. On quitte la Chine, direction Barcelone avec The Excitement et la voix explosive de leur chanteuse, Coco.
Don't matter, baby.
Hold On Together, The Excitement. Ils seront en concert à Lille le 9 mars. Ils ont déjà fait danser Gaobo. Et oui, je vous ai vu bouger Gaobo.
Tous
les deux dans le NRV.
Irrésistible. NRV, le nouveau rendez-vous.
Gaobo, vous êtes photographe, artiste de la Maison européenne de la photographie à Paris, la MEP, vous rend hommage actuellement à travers une rétrospective de votre travail. Le titre, c'est Offrande. Ce titre, il raconte quoi par rapport à votre travail ?
D'abord, je voulais préciser que si on prend le mot rétrospectif, c'est le rétrospectif pour dix dernières années de travaux.
On ne remonte pas jusqu'en 1985.
Non. Oui, et je pense que c'est un peu trop tôt pour faire un rétrospectif.
Oh ben quand même, oui, en même temps, il en arrive...
Je suis patient.
Vous êtes de la même génération, hein, tous les deux. Oui, vous êtes nés de la même année, en 64.
Il est 5 mois plus vieux que moi.
Ah, vous avez regardé vos dates de naissance tout à l'heure?
Oui. On a comparé tout ça, on a vu que je pourrais être son père.
Oui. Non. Moi, je l'appelle grand frère.
Alors, offrande, ça veut dire quoi par rapport à votre travail?
Offrande, c'est un geste que je voulais faire d'abord pour les publics français. Ouais. Et par hasard, dans cette exposition, il y a 4 parties.
Ouais.
Donc la première partie, le titre, ça s'appelle Offrande du mandala.
Ouais.
Et c'est une œuvre qui a eu ce nom dès le début. La deuxième partie, c'est Offrande au peuple du Tibet. Pourquoi j'appelle ce nom-là? Parce que j'ai toujours l'impression, et quelque part c'est vrai que je dois beaucoup à ce peuple.
Ah bah ça on le comprend bien. Ouais. En 1985, c'est votre premier voyage au Tibet. Vous avez 20 ans, vous êtes étudiant justement aux Beaux-Arts de Pékin.
Ouais.
Vous n'êtes pas véritablement photographe à l'époque.
Pas du tout.
Vous êtes plutôt dans la peinture, dans le dessin, dans la calligraphie.
Mmh.
Et là, qu'est-ce que vous allez découvrir au Tibet pour que ça puisse changer aussi radicalement ce qui va devenir votre œuvre ?
Oui. La première fois pour aller au Tibet, ça n'a rien à voir avec la culture. J'étais un fan de cow-boy. Je voulais faire du cheval. Je voulais aller dans un plateau qui est loin de mon univers. Et si je peux, à l'époque, c'est sûr, je vais aller jusqu'au Texas.
Donc c'est pour devenir un cow-boy que vous allez au Tibet.
Tout à fait.
Mais pour autant, quelque chose va vous marquer là-bas.
Oui, bien sûr. À partir du premier voyage, pendant le premier voyage, j'ai emprunté un appareil photo. Je fais quelques rouleaux de noir et blanc et je l'ai développé en rentrant dans mon dortoir après minuit. Et je l'ai fait tirer. Après, mes camarades, ils trouvent que j'ai du talent, je suis doué. Bon, je dis, pour le premier voyage, je l'ai fait vraiment pour faire de la photo. Ça commence le deuxième voyage.
Le deuxième voyage, je vous ai dit, ça y est, je vais faire de la photo.
Voilà, parce que mes camarades, ils trouvent que je suis doué, donc je vais essayer.
Quelles sont les premières photos que vous avez prises à cette occasion? Des portraits, des paysages?
Ce sont des photos, il n'y a rien d'importance. Il n'y a pas de scènes spectaculaires. Il n'y a pas vraiment d'une recherche. C'est juste un sentiment, de l'instant qui m'intéresse. Donc c'est toutes ces photos-là qu'on le trouve dans la première salle de l'exposition.
À l'exposition,
ouais.
Ce sont des photos que plus tard, vous allez recouvrir de pas mal de choses, de peinture, d'encre, et aussi de votre propre sang.
Ouais.
Qu'est-ce que ça signifiait pour vous d'intervenir aussi de façon corporelle sur vos photographies?
D'accord. Alors là, c'était 15 ans plus tard.
Ouais.
C'était 15 ans plus en 2009. En 2009, j'ai décidé de retourner au point de mon départ. Ça veut dire que je vais faire l'art.
Il était temps.
Oui. La première chose que je fais, parce que toutes ces années passées, tous les pellicules, des choses que je fais, ça devient un bazar total. Et j'ai dit, je vais ranger un peu mes tiroirs. Donc j'ai ressorti tous les négatifs, j'ai regardé dans le loop, et c'est là que j'ai vu que toutes les photos que j'ai faites, ce n'est plus la même photo. J'ai l'impression que ce n'est pas moi qui l'a fait. Donc j'ai décidé de faire une série pour faire un livre. Pourquoi le sang? C'est parce que, en regardant toutes ces images, j'ai une envie d'écrire. Et je sais pas écrire, j'ai écrit mal. Et où je ne pouvais pas bien écrire. Comme je ne pouvais pas écrire le juste, je vais juste écrire dessus. Donc ce sont des écritures inventées sur toutes ces images. Mais le sens, c'est le vrai sang. Le sens, c'est...
C'est le vrai sang. Emmanuel Guibert, je sais que vous avez regardé là quelques images, quelques photographies dans l'excellent catalogue réalisé aux éditions Xavier Barral, 1985-1995, Tibet. Qu'est-ce qui vous a frappé dans ce que vous regardez? Est-ce qu'il y a des images qui vous ont plus particulièrement marqué?
Il y a déjà quelque chose qui m'a plu beaucoup dans ce qu'il vient de raconter. C'est le côté adoubé par les amis. Ouais. C'est-à-dire rentrer d'un voyage avec des choses en poche, en ignorant complètement leur qualité. Et tout d'un coup, parce que les autres vous disent « Ah, mais c'est pas mal ce que t'as fait. C'est bien.
» On fonctionne comme ça.
Oui, exactement. Oui, moi, ça me ramène très loin. À ma première maîtresse d'école qui m'a dit un jour « Tu dessines bien. »
Elle parlait comme ça.
Elle parlait comme ça parce que c'était dans le midi. Et c'est très très important. Par ailleurs, donc, on a ce superbe livre que je découvre ce soir, publié par l'admirable Barral, qui fait les plus beaux bouquins de photos du Far West. et donc, il y a ici un ensemble admirablement présenté. Je sais pas qui a fait le graphisme, Gao, de ce livre. Qui l'a mise en page?
Le graphisme, c'est moi qui a fait la mise en page. Le choix des œuvres, la mise en page.
C'est presque un accrochage. Véritablement, c'est quelque chose qu'on peut retrouver actuellement à la Maison européenne de la photographie.
Mais la couverture, sous-couverture, tout ça, c'est la maison d'édition qui l'a refait.
Vous venez de quel milieu social pour vouloir être artiste en Chine dans les années 80?
Moi?
Oui, Gao Bo.
Moi, je viens d'une famille très ordinaire. C'est comme à l'époque, comme tout le monde, on vient d'une famille assez pauvre. Mes parents, ils sont du nord de la Chine. Ils sont de Mandchourie, dans la province du Heilongjiang. Et moi, je suis né dans la province du Sichuan, dans une petite ville industrielle qui s'appelle Deyang, 50 kilomètres loin de la capitale du Sichuan province.
Et à quel moment vous avez décidé de devenir artiste pour poursuivre justement ces études, cette formation?
Vous savez, à l'époque, pendant la révolution culturelle, le mot artiste, ça n'existe pas. C'est pour les capitalistes. Les gens qui dessinent, qui écrivent, on appelle, ce sont des personnes propagandes. En chinois, c'est xuan chuan yuan. Ouais. Donc ça n'existe pas ce mot. Donc comment je suis devenu un artiste, je ne sais pas. Moi, je pense que c'est quelque chose de beaucoup lié au physique. Donc je pense que mon corps a besoin d'être un artiste. Ou mon corps a besoin que je fasse des choses pas facilement nécessaires, mais... et ça me donne certaines libertés et priorités.
Pour autant, j'ai pu lire dans la biographie qui vous est consacrée dans un autre catalogue qu'en 2002, vous aviez arrêté la photographie. Vous aviez décidé d'arrêter la photographie.
Oui.
Qu'est-ce qui s'est passé pour vous consacrer à l'architecture?
D'abord parce que je gagnais mal.
C'est vrai? Alors même que vous étiez particulièrement reconnu, même dans le photojournalisme, vous aviez eu un prix à Perpignan, vous aviez rencontré Christian Cajol, vous publiez des photos dans Paris Match, dans Vogue, dans Newsweek. Oui. Et ça ne marchait pas autant que...
Non. Mais la vraie raison, c'est-à-dire que... après l'exposition à la Galerie Vue à Arles, j'ai eu mal à l'aise avec la photographie. Mais d'ailleurs, j'ai toujours pas très à l'aise avec la photographie. J'ai toujours l'impression que la photographie, si tu veux être un vrai photographe, tu dois faire une carrière. Mais c'est cette partie-là. Moi, je suis pas carriériste. J'arrive pas à faire une carrière ou avoir une profession. Donc, et aussi, moi, je me suis dit, la photographie, c'est, mais ce qui est bien, c'est parce que la photographie, pour moi, c'est l'artiste le plus jeune.
C'est l'art le plus jeune. Alors, pour montrer justement que la photographie ne suffit pas dans tout votre parcours, il y a vraiment une œuvre que j'aime vraiment beaucoup parce que c'est à la fois de la photographie et une action. C'est en 2010. Vous retournez au Tibet. Hein, vous y êtes allé régulièrement depuis 1985. Mmh. Mais en 2010, vous y retournez parce que vous avez un projet. C'est prendre 1000 portraits en noir et blanc qui seront imprimés sur 1000 pierres. Et vous aviez à l'époque le projet de réinstaller toutes ces pierres au Tibet.
Oui. Bon. Cette histoire, ça a commencé bien d'avant, bien 2010. Au Tibet, il y a une forme de geste, c'est-à-dire les Tibétains qui posent les pierres faire une forme de pyramide. Mmh. Et on appelle ça les pierres marni. Ouais. Et on le trouve, ce genre de pierre, partout au Tibet. Moi, je trouve que c'est très beau. J'ai toujours frappé par ce geste-là. Et cette geste s'est fait pour offrir au Bouddha, ou du mandala, toujours, voilà, ou pour la nature. Moi, je trouve que ce qui est le plus beau, c'est les gens qui font ça. Donc, c'est là que je décide de faire un offrande pour les peuples. Donc j'ai dit, je vais tirer leurs portraits, ouais, c'est-à-dire imprimer, faire des tirages de leurs portraits sur les pierres. Donc j'ai décidé d'aller faire la prise de vue. D'ailleurs, ça m'a coûté très cher, parce que mes deux yeux sont abîmés à cause de ce travail. J'étais trop longtemps resté en plein soleil. Vous savez, au Tibet, l'altitude est très haute, dans le rayon de X, ça tape très fort. Donc mes deux yeux sont complètement abîmés. Mais en même temps, je ne regrette pas. Moi, je dis, ton corps abîmé, il y a une signification aussi. Ça veut dire que tu es vraiment plongé dans l'art.
C'est presque un mot de la fin. Vous êtes parfait. Gaobo, offrande, c'est actuellement à la Maison européenne de la photographie à Paris. Il y a plein de catalogues, j'en parlerai tout à l'heure. Offrande, c'est une rétrospective des 10 dernières années, parce que ça a commencé en 1985. Tout de suite, vous restez avec nous. Emmanuel Guibert aussi. C'est la musique et les lives, l'instant Facebook. Eh oui, c'est l'instant Facebook, l'instant V de Valérie. Au début, vous n'aimiez pas du tout cet instant V.
Oh, maintenant que ça devient l'instant Facebook, ça me gêne énormément.
Donc, on peut nous suivre à partir de maintenant sur la page Facebook de l'émission.
Absolument. Pour... Alors, on est avec le duo Her, c'était un duo d'hommes. Son premier album slash mixtape cartonne grâce au titre comme 5 Minutes ou Quite Like. D'abord, ça se passe par Internet, ensuite en tournée, et puis la fièvre se prend sur France Inter où 5 Minutes trouve une place précieuse sur la playlist et comme sur la BBC, sans oublier une pub pour la marque de Steve Jobs. Victor et Simon se connaissent bien depuis le lycée. Her n'est pas leur première expérience. Ils faisaient partie des Pop-Pop-Pop-Pops, une formation, je crois que vous avez compris, très pop, même un peu plus mainstream, si je peux me permettre. Her, c'est une toute autre histoire. Le son est plus sensuel. Les influences plus soul, ce qu'on voit vraiment quand ils sont sur scène. Je les ai vus au Festival des Inrock en novembre. C'était vraiment une performance hyper musclée, très pro. Alors ce soir, ils proposent des versions plus épurées, dénudées, n'excite pas trop Laurent.
Bon, on a déjà vu le batteur en train de s'habiller tout à l'heure en technique. Ouais, donc ouais. On peut tout... Eh oui, on vous a vu.
Mais oui, on les a vus. Alors, Victor et Simon ont en commun un amour pour les hip-hop, Frank Ocean, Shuggy Otis et pour les femmes. Ah oui, il faut noter qu'ils aiment les fringues. Ils sont très élégants ce soir. Tout de Bordeaux vêtus. Her dans le nouveau rendez-vous sur France Inter. 5 minutes.
All I need is 5 minutes if you can see the signs. All I need is 5 minutes if you read between the lines. One for the eyes and one for the voices. One for the touch, one for the soft grin. And then the kisses. And then the kisses. All I need is 5 minutes. 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 Start the ignition. All I need is your look to hang my imagination. All I need is your view to picture your position. We could get away, ride horses, sail on the bay, drink from the source. And then the kisses, following courses. And again kisses, following courses. One hit of a cigarette, mistakes don't regret. All I need is 5 minutes, like a drug with side effects, like a ride on a rocket, the love you don't expect. All I need is 5 minutes. All I need is 5 minutes. One hit of a cigarette, mistakes don't regret. All I need is 5 minutes, like a drug with side effects, like a ride on a rocket, the love you don't spare. All I need is 5 minutes. 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 All I need is 5 minutes.
Oh yes, c'est Her. Dans le nouveau rendez-vous sur France Inter. Simon Carpentier au chant et à la guitare, Victor Solf qui est caché derrière le piano à queue, qui va chanter dans quelques instants, Thomas Cléris à la contrebasse et puis Mathieu Gramoli à la batterie. Alors une version très différente de celle qu'on a l'habitude d'entendre sur France Inter. C'est une idée que vous allez faire pendant toute la tournée, Simon, ou c'est juste pour ce soir comme ça?
On aime bien en fait mettre à nu un peu nos chansons, essayer de se retrouver avec juste l'essence même du titre, donc la voix et la mélodie. Et c'est un exercice qu'on aime beaucoup. Et en fait, on a sorti une version acoustique, on va dire, de notre tape, où il y a vraiment cette formule-là.
Her tape number one ou her tape number two?
Her life tape.
Her life tape, exactement, parce qu'il y a les versions live.
Ouais.
Exactement.
Et donc on a enregistré ça au studio Ferber, le mythique studio à Paris. Et voilà, c'est vraiment une réinterprétation, on va dire, de notre musique d'une manière beaucoup plus simple, beaucoup plus épurée.
D'accord.
C'est vraiment une tendance en ce moment. Hein. Rover avait le même projet aussi de retravailler, ouais. C'est pour revenir aux fondamentaux de sa musique, Vali.
Alors, le prochain titre est chanté par Victor, parce que est-ce qu'il y a des je sais pas, les.
Celui qui est planqué derrière le piano.
Bah, il est planqué derrière le piano, mais je l'ai vu sur scène. Il bouge beaucoup aussi. Cette fois, le titre s'appelle Union. Un petit mot de quoi ça parle, Union.
C'est le titre qui clôture notre première EP, notre première tape. Et notre première tape, en fait, évoque une relation amoureuse. On évoque beaucoup la femme aussi, la féminité. Mais,
jolie pochette aussi, un dessin d'une jolie,
voilà,
jolie
c'est
femme.
Notre graphiste Raphaël Garnier qu'on aime beaucoup. Et donc, cette dernière chanson clôture la tape et donc on évoque le mariage, car je suis marié.
Ah, dis donc, dommage.
Et j'en parle.
C'est très, très bien. C'est bien de mettre l'amour dans sa musique. C'est le groupe Her. Ils sont dans le nouveau rendez-vous sur France Inter. C'est à vous.
Can you feel our chemistry? I want you to be my remedy. Baby, you know now. Baby, I know nothing but destiny. All this time you were meant for me. Baby, you know now. And baby, I know. You give rise to this melody. No need to disagree. Baby, you know now. Baby, I know. Can you feel our chemistry? I want you to be my remedy. And baby, you know now. And baby, I know. I'll be there when you stumble, just like I said. But I like all the eloquence the shirt is pursued. Try to be elegant for you. This is just who we are, our plan to remain. Ready for the day when you choose my name. I'm running in your brain.
Ouais. Hearst, France Inter dans le nouveau rendez-vous.
C'est plus que bien.
C'est vachement bien. En tout cas, ils ont beaucoup de dates de concert le 23 février à Clermont-Ferrand. Au mois de mars, ils passeront par Jouy-les-Tours, Gennevilliers, Maguille, Hongres, Brest, Lorient. Ils seront le 11 avril à Paris à la Gaîté Lyrique. Mais désolé, c'est complet. Il faut aller peut-être au Printemps de Bourges pour les voir en concert. Juste une dernière question, Simon. Est-ce que vous allez être sur scène avec vos choristes qui étaient super?
De temps en temps, oui, on les amène quand on peut.
C'est super.
C'est vraiment agréable de les avoir avec nous.
En tout cas, merci beaucoup d'être venu dans le nouveau rendez-vous. Prise de merci son, beaucoup. Alexandre Chenet, Hélène Langlois et Grégory Wallon.
Et à la vidéo, Jacques Manquest. Pour l'instant Facebook. De l'instant V.
Un new rendez-vous. Non. The new rendez-vous.
Après la musique, après la photographie, la bande dessinée avec vous, Emmanuel Guibert, prix René Goscinny au dernier festival d'Angoulême. Ça récompense l'ensemble de votre œuvre de dessinateur, de scénariste, depuis le début des années 90 avec une signature. La biographie en bande dessinée qui depuis est devenue un genre. Vous aviez fait La guerre d'Alan qui était centrée sur les souvenirs de guerre d'Alan Cope, un ex-GI resté en France après la guerre que vous aviez rencontré, qui était devenu votre ami. Il y a eu aussi Le Photographe, là c'était une série consacrée au photojournaliste Didier Lefebvre, un de vos amis aussi. Puis il y a eu des séries pour la jeunesse, les sardines de l'espace que j'adore avec Joanne Sfar. Le prix René Goscinny. Goscinny, ça représente quoi pour le scénariste que vous êtes aussi, et le dessinateur?
Oh, c'est le plus beau nom qu'on puisse affecter à un prix de scénariste.
Il y en a plein de scénaristes, excellents scénaristes. Goscinny, ça représente quelque chose pour le dessinateur que vous êtes aussi?
Il y en a plein, Dieu merci. Il se trouve que René Goscinny a été certainement, pour notre profession, un des plus importants, non seulement parce qu'il a écrit des livres admirables, ça c'est évidemment ce qui vient en premier, mais aussi parce qu'il a pris cette profession en main, si j'ose dire, à un moment, pour l'asseoir, pour l'affirmer, pour qu'elle soit reconnue. Donc il a toutes sortes de titres à notre reconnaissance. Moi, si je devais en parler, je parlerais essentiellement du petit garçon que j'étais et qu'il a découvert. Tous ces jouets-là, en fait, parce qu'il a su me parler, il a su m'intéresser au monde, il a su exercer un merveilleux magistère sur moi, qui est celui de l'humour, en fait. C'est un de ceux qui m'a le mieux appris à me marrer en ce bas monde. Donc, pour tout ça, je lui voue une reconnaissance éternelle. Et donc voilà, raison pour laquelle je suis doublement sensible d'avoir à ce prix.
Les premiers dessins, vos premiers dessins, ça représentait quoi? Vous copiez les autres, comme beaucoup de dessinateurs à l'époque, ou pas? Quand ils commencent, généralement, on copie, on reprend.
Et c'est une question qui m'intéresse beaucoup. Les premiers dessins, d'où ça vient, etc. Comment se fait-il, par exemple, qu'on dessine tous et qu'une bonne partie d'entre nous s'arrête à un moment? C'est très étrange, tout ça. Mais le fait est que moi, je n'ai pas de souvenir de mes premiers dessins, puisque j'ai le souvenir d'avoir toujours dessiné, d'avoir toujours fait ça avec beaucoup de volupté et d'intérêt. Et donc, je me souviens d'émerger de ma propre préhistoire avec un crayon à la main et déjà en train de faire des trucs, des gribouillis, des dessins sur tout ce qui me tombait sous la main.
Il y avait une culture BD chez vous ?
Il y avait des bandes dessinées. Mon père en lisait lui-même quand il était petit garçon dans les années 40. Donc j'ai eu la chance d'arriver, oui, dans un milieu où il y avait beaucoup de livres et en particulier des bandes dessinées. Oui.
Alors à Angoulême, vous étiez présent avec votre dernier album « Martha et Alan » d'après les souvenirs d'Alan Ingram Cope, paru à l'association. Cet Alan Cope, ce n'est pas la première fois que vous le dessinez. Je le disais, vous l'aviez déjà consacré à une trilogie, « La guerre d'Alan ». Puis vous aviez dessiné sa jeunesse dans l'entre-deux-guerres en Californie, toujours à la première personne, on va y revenir. Mais en fait, cet Alan, vous l'avez rencontré, c'était un ancien GI qui était resté en France après la Seconde Guerre mondiale. Vous êtes devenu son ami, vous avez enregistré vos conversations. Alan, lui, est mort en 99. Vous l'avez rencontré par hasard en 94 sur l'île de Ré en lui demandant votre chemin. Sur quelle base vous êtes devenus amis tous les deux?
Oh, c'est très mystérieux. On est devenus amis tout de suite parce que cette première conversation au cours de laquelle je lui ai demandé mon chemin, elle a duré un quart d'heure, ce qui est un peu beaucoup pour juste dire la place de la République, c'est la première à gauche. Et donc c'était tout de suite le signe d'un intérêt. Et puis très rapidement, je me suis rendu compte que j'avais pas envie de quitter ce monsieur, que j'avais envie de rester auprès de lui pour l'entendre me raconter son histoire parce qu'il le faisait très bien.
Il avait une façon particulière de raconter?
Ah oui, oui. Mais tous les conteurs ont une façon à eux de raconter. Et lui m'intéressait à son histoire essentiellement par sa présence, le choix de ses mots évidemment, et puis surtout encore une fois le temps et la confiance que ça implique de se livrer à ce point à quelqu'un. Donc le temps qu'on a passé tous les deux, ça a été un temps de confiance partagée. Et j'avais besoin moi énormément de cette confiance pour pouvoir me lancer dans une entreprise étrange
qui avait duré des années. oui, raconter ça, je sa vie.
Pas, ouais. Si je savais que je me lançais dans quelque chose de long, mais non, ce qu'il y avait de plus étrange à l'origine, c'était quand même d'apporter à quelqu'un ses souvenirs vus par un autre. Parce qu'au fond, pendant la première partie de ce travail, il était toujours là. Et je lui amenais des planches dans lesquelles il se voyait, jeune homme. Et il fallait évidemment qu'il soit d'accord, sinon j'aurais pas pu continuer. Et c'est par le fait qu'il était non seulement d'accord, mais même séduit et encourageant, que j'ai pu continuer après sa mort, sur la base de ces dizaines et dizaines d'heures d'enregistrement qu'on a fait tous les deux dans la petite cabane, à 1 kilomètre de sa maison de ville à Saint-Martin-de-Ré.
À quel moment vous avez décidé d'enregistrer ?
Tout de suite.
Ah ouais, d'accord.
Tout de suite. Je me livrais à un sport quand j'étais adolescent, qui consistait, quand j'avais eu une conversation intéressante dans la journée, le soir, quand je rentrais chez moi, à essayer de la retranscrire telle quelle, la plus palpitante et la plus chaude possible, dans des carnets. Donc, je me suis rendu compte que d'abord, ça faisait du bien à la mémoire, et puis en plus, je me retrouvais à la tête de tout un cheptel comme ça de conversation, avec tout ce que les gens ont de façon originale de parler, de tours de langage, etc. Ça me plaisait beaucoup. Quand je l'ai rencontré, au bout d'un quart d'heure, je me suis rendu compte qu'avec lui, je pourrais pas faire ça. S'il manquait le moindre raclement de gorge le soir dans ce que je transcrivais, je n'aurais pas.
Vous êtes un obsessionnel, c'est pas possible.
J'avais besoin de cette voix, ouais. J'avais besoin des mots qu'il choisissait, parce que tout simplement, encore une fois, ça m'intéressait, ça me plaisait. Donc je lui ai proposé de l'enregistrer, il a dit oui et on s'est lancé.
Et à partir de là, vous avez commencé à dessiner. Les premiers dessins qui sont rattachés à lui, c'était quoi ?
Ah, c'est une drôle de petite histoire assez belle. Elle s'est passée après-guerre aux États-Unis, où il a fait un bref séjour avant de revenir définitivement en Europe, puisqu'il n'a jamais remis les pieds dans son pays après 1948, dans son pays natal. Et juste après-guerre, donc il y est rentré brièvement, et il s'est retrouvé un soir dans une très belle propriété en Californie, en pleine nature. Et à la fin du dîner, le maître de maison a dit « Nous allons maintenant tous faire silence parce que vous allez voir, il va se passer quelque chose d'assez extraordinaire. Ce que j'attends de vous, c'est que vous ne bougiez pas d'un cil, que vous soyez le plus calme possible. » Et donc, ils ont tous fait ce qui leur était demandé. Et ils ont vu sortir de la forêt des petits renards sauvages, des renardos, qui se sont approchés de la terrasse sur laquelle ils étaient en train de prendre leur dîner. Et voyant que les gens ne bougeaient pas, ces renardos se sont enhardis à monter sur la table, à finir le repas des convives, et ensuite à se livrer à une sorte de sarabande qui consistait à passer d'un autre fauteuil à l'autre derrière les invités, jusqu'à ensuite repartir et disparaître dans cette forêt. Et c'est un épisode évidemment qui m'avait frappé quand Alan me l'a raconté, beaucoup mieux que je ne viens de le faire.
Et vous êtes un très bon conteur en fait. Ouais.
C'est le premier épisode que j'ai dessiné. Et parce que je savais que c'était une histoire qui était très très chère à son cœur, c'est quelqu'un qui aimait la nature, les animaux, et je me souvenais du bonheur particulier qu'il avait eu à me raconter cette anecdote. Donc la première série dessinée que j'ai faite, c'était sur cette petite anecdote.
C'est intéressant parce que quand je vous écoute parler, je me dis, parce que dans ces bandes dessinées, en fait, le personnage parle à la première personne, c'est Alan qui parle. Et même à un moment donné, il parle d'un dessin qu'il veut montrer, notamment un arbre, on y reviendra à ce dessin. Et je me disais, mais vos personnages parlent à la première personne et vous parlez quand ? Vous allez faire un album sur votre propre parcours, sur votre propre histoire, Emmanuel Guibert, c'est possible ou pas ?
Alors, dans ce qui concerne les biographies consacrées à mes amis, ouais. D'emblée, je me suis dit que la meilleure façon de faire partager au lecteur l'expérience que j'avais eue en côtoyant ces gens, c'était de laisser à mon lecteur la place que j'occupais auprès d'eux. C'est-à-dire que je m'enlève du fauteuil, si j'ose dire, et je l'assois à ma place pour qu'il puisse profiter de ce dont j'ai profité. Moi, c'est la qualité de ce que j'ai entendu que je veux retranscrire. Donc, ça impliquait que, évidemment, je sois présent à ce livre dans la mesure où c'est quand même moi qui le fabrique, mais que je n'y mette pas mon grain de sel, si j'ose dire, autrement qu'en interprétant par mes images ce que j'ai entendu. Parce que toutes ces images sont nées de ces images mentales que je me fabriquais dans ma propre tête pendant que j'écoutais ces gens parler. La merveille des conteurs, c'est que quand ils parlent, on voit. Donc quand on a envie de dessiner, quand c'est votre métier, il se trouve qu'on peut rentrer chez soi, se précipiter sur une feuille et écluser ces heures et ces heures de conversation qui nous ont remplis d'un film extraordinairement poétique, dont généralement les feuilles ne recueillent qu'un faible précipité, mais c'est quand même là et ça permet de partager avec d'autres la richesse de ce qu'on a entendu. Ces gens-là que j'ai rencontrés, c'était pas du tout des gens connus ou non. C'était des anonymes, et je savais que si nous ne faisions pas ensemble l'effort de transcrire ce qu'il me disait, personne n'y aurait accès. Donc je trouvais ça injuste et je me suis dit, il faut faire des livres de manière à ce que ces paroles circulent.
Et vous ?
Ah, mais vous lâchez pas le morceau.
Ah, non, c'était ma question. Oh, moi, je me suis dit, jusqu'à quel moment il va parler?
Je sais pas. Pour là, j'atteins un âge, on en a parlé tout à l'heure, qui est celui de Gaobo. Et le fait est que, à cet âge-là, on commence à s'aviser qu'on a soi-même un certain nombre de souvenirs. Et, voyons par exemple ce qu'il est en train d'advenir de l'Europe aujourd'hui. Il m'est arrivé de me souvenir récemment que j'avais connu par exemple la ville de Berlin où je suis allé tout jeune homme, coupée en deux par un mur. Et je me souviens de l'impression que m'a faite ce mur. Elle était tragique, détestable. Et je me dis qu'aujourd'hui, il n'est peut-être pas inutile de faire état devant des générations qui montent, des générations plus jeunes que nous, de ce qu'a été cette Europe qu'on a connue il y a une trentaine d'années. Et qu'on souhaiterait ne pas, d'une manière ou d'une autre, voir revenir. Donc,
Et c'est celui qui a dessiné pour la première œuvre qu'il a publiée, c'est Brune, sur la montée du nazisme. Donc, c'est quelqu'un qui sait de quoi il parle.
Alors, le fait est que, voilà, s'il m'arrive un jour, dans les temps qui viennent, de parler de quelque chose qui a trait à mon expérience personnelle, ce sera peut-être ça, parce que je pense que je partage les inquiétudes et les angoisses de tout un chacun en ce moment sur ce qu'il est en train d'advenir de notre continent. Et je me dis que parler de son passé est peut-être ce qu'on peut faire de mieux pour irriguer le présent, parce que le passé de l'Europe, comme on le sait, est tragique, et il s'agirait qu'on le sache, qu'on s'en pénètre.
Alors, Martha et Alan, c'est le récit d'une amitié ou d'un amour d'enfance entre Alan et une petite fille à l'école, Martha. Ils ont 5 ans et l'album va raconter cette relation. Les enfants qui chantent dans le chœur de l'église presbytérienne de Pasadena. Et puis, il y a la mort de la mère d'Alan, l'arrivée d'une belle-mère de 20 ans. Alan a 14 ans, la vie va changer, etc., etc. Les deux adolescents vont peu à peu se perdre de vue. Puis, je laisse les lecteurs rentrer dans la suite du récit. Tout est en double page, c'est très intéressant. Pas de case, double page. Et surtout, le récit commence dans les années 30, donc un récit de souvenirs. Comment il fallait s'y rendre comment il fallait travailler pour rendre cette atmosphère des années 30? Je sais que vous avez travaillé avec une technique particulière, des feuilles de plastique, c'est ça, pour pouvoir dessiner dessus?
Ça, c'est la popote de dessinateur, oui, mais ça consiste à changer régulièrement de support pour pas se rouiller, pour essayer des choses différentes. Donc cette fois-ci, je n'ai pas travaillé sur du papier, j'ai travaillé sur du plastique transparent, sur lequel mordent un certain nombre de matériaux, certaines encres, certaines craies, etc. Et c'est agréable parce qu'on peut travailler recto verso. J'étais très sensible à ce que Gaobo disait tout à l'heure sur l'usure du temps et l'usure du travail, sur nous autres qui usons de nos yeux, de nos mains, etc. Donc j'ai des problèmes un peu comparables aux siens.
C'est vrai, avec les yeux aussi.
Oui, avec les yeux aussi. Forcément, on s'amoche en les utilisant à outrance. Donc le fait est que pouvoir travailler comme ça sur des supports comme cela, ça repose. Et puis c'est tout simplement récréatif. Hein. Nos métiers sont des jeux aussi. On ne cesse pas de jouer avec des matériaux.
Dernière question que je pose à tous les dessinateurs qui viennent ici. Quelle est la chose que vous n'aimez pas dessiner ou qui vous résiste?
En général, je suis pas très familier avec tout ce qui est de l'ordre de la mécanique, mais comme j'aime pas qu'on me résiste, si j'ose dire,
vous y mettez à fond.
J'ai tendance à essayer d'aller dans les endroits où je sais que je suis réputé ne pas aimer aller.
Et vous, Gaobo, est-ce qu'il y a quelque chose que vous n'aimez pas dessiner?
Que j'aime pas dessiner?
Ouais. Qui est difficile pour vous à dessiner?
Je ne sais pas. Aujourd'hui, quand je dessine, c'est pour réaliser mon travail de la photographie.
Ah ben voilà, la boucle est bouclée.
Bonjour, Vali. Évidemment, Véa de Zali. Je suis Vali. Okay.
Emmanuel Guibert et Gaobo, vous restez avec nous justement tout de suite pour la mixtape de Vali. Chaque jeudi, Vali nous raconte le meilleur des albums à venir.
À mon goût,
mais bien
faut
sûr,
dire.
Bah, j'espère bien.
Commençons par un rayon de soleil, Laurence. Un peu de luminosité ne nous fera pas de mal. C'est une jeune femme néo-zélandaise, Amelia Murray, nom de scène Phaser Days. Elle est à peine sortie de l'adolescence. Elle sort son premier album Morningside au mois de mai. C'est à la suite d'un EP qu'elle a enregistré pendant des séances nocturnes dans sa chambre et qui a fait la buzz très loin de chez elle, à Montréal, New York, en passant par le Royaume-Uni. Pour ne pas perdre les bonnes habitudes, Emilia a écrit, produit, enregistré, mixé et masterisé son disque. La vitamine D a du bon. Lucky Girl est le premier extrait. I'm Morningside Feather Days sort le 5 mai chez Groenland Pias. Après la Nouvelle-Zélande, partons dans le Grand Nord, de l'autre côté carrément de la planète, à la rencontre d'une autre jeune femme, auteur, compositeur, interprète aussi. Laura Sauvage est née dans le Nouveau-Brunswick. Elle s'est fait connaître au sein du trio folk québécois les Hey Babies avant de s'envoler de ses propres ailes. Le morceau de son EP disponible dans une semaine me rappelle Hole, le groupe de Courtney Love de la bonne époque, mais aussi plus proche de nous de Courtney Barnett. En gros, je l'adore. Voici Rubber Skin. Le pays de Laura Sauvage, Ordinormal, sort le 24 février chez Roy Music Simone Records. Revenons en France avec le premier album de Cannibal chez Born Bad Records. Cannibal, non pas pour leur goût culinaire, mais pour leur garage exotique. Un garage né dans la Normandie dans lequel ils y poussent des rythmes venus d'ailleurs. Ils se décrivent comme le chaînon manquant entre Philip Cutty, The Doors et The Seeds, ensemble psychédélique californien des années 60. L'album s'appelle No Mercy for Love, comme le premier extrait. La chanteuse, No Mercy sort le 3 mars chez Born Bad Records. Pour finir, la chanteuse de Stereolab, Laetitia Sadier, elle revient avec un nouveau projet, Laetitia Sadier Source Ensemble. C'est son quatrième album solo. Solo, il faut dire, parce que pas vraiment. Elle est entourée comme d'habitude, parce que depuis les années 90, elle est une des darlings de la scène pop expérimentale, partageant son talent entre la France et l'Angleterre, voire envoûtante. On la connaît pour ses collaborations avec Julien Gasque, entre autres, qui était notre invité hier soir, Blur ou encore The High Lamas. Find Me, Finding You est truffé de titres dans lesquels on voyage sur plusieurs stratosphères. Écoutez Undying Love for Humanity. L'album Find Me, Finding You de Laetitia Sadier sort ensemble sur fin mars sur Drag City.
C'est ce qu'on écoutait tout à l'heure au bureau,
ouais.
C'est ça? C'était super, toute l'équipe était derrière.
Bah exactement, ils aimaient bien.
Le NRV, première partie, c'est fini. Merci à nos deux invités, merci Gaobo. Les offrandes, c'est à la Maison Européenne de la Photographie à Paris. Je signale deux catalogues, Tibet 1985-1995, offrande aux éditions Xavier Barral, et puis une rétrospective en coffret de trois volumes aux éditions Artron, Contrasto et la MEP. Et enfin Gaobo, on vous retrouvera dimanche prochain, 22h15 minuit, au micro de Brigitte Patient dans Regardez voir, sur France Inter bien sûr. Emmanuel Guibert, Martha et Alan, c'est paru à l'association. On va se retrouver, nous, dans 15 minutes, lundi, parce qu'il y a l'instant V de lundi.
Absolument.
Et ce sera...
Oh, je suis contente, c'est Pierre Sfaccini, artiste multiculturel et un peu mystique aussi.
Parfait. Et nous, dans 15 minutes, on revient avec ça.
J'accepte de mourir, mais avec un minimum d'effort. Alors, je vais donc rester ici, fumer mes dernières cigarettes et attendre. Moi, je vais mourir pour la fécondation du désert.
Le désert avance, paradis ou enfer, le rendez-vous est pris.